La semaine politique Europe 1, Paris Match, JDD, Pierre de Villeneuve.
Mais c'est vrai qu'il y a tout un débat sociologique, comme disait Arthur Nazaret, autour de Jean-Luc Mélenchon et notamment de ce portrait qui est fait de lui dans Paris Match, Jean-Luc Mélenchon, la grande illusion. On va en parler dans un instant avec Gilles Martin-Chauffier de Paris Match, notamment Louis Dragnel d'Europe 1 et Arthur Nazaret du JDD. On est passé quand même un peu vite sur l'abstention. C'est vrai que 54% d'abstention, bon, c'est peut-être c'est les derniers sondages, je regarde pas comme ça, Louis.
Bien sûr, bien sûr.
On est passé un peu vite là-dessus.
Je pense qu'effectivement, on passait un peu vite, mais parce qu'il n'y a pas de surprise en fait. Je crois que les gens, maintenant...
Vous rendez compte de l'inertie, c'est-à-dire on dit 54% de...
Pourquoi
c'est comme si on disait, voilà, les gens, météo,
pourquoi les gens se déplaceraient massivement pour une assemblée qui ne leur ressemble pas? Le problème de l'Assemblée nationale française, c'est qu'elle ne ressemble pas à la France. Dans cette Assemblée nationale, il n'y aura pas d'ouvriers, il n'y aura pas de gilets jaunes, il y aura... le Front National représente peut-être 25%, il y aura 1 ou 2% de députés du Front National... En revanche, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des profs, il y aura des avocats, il y aura des médecins, il y aura des technocrates. C'est pas la République du peuple, c'est la République des technos et des avocats. Et donc, effectivement, c'est ça. C'est pour ça que les gens n'y vont pas.
Mais regardez pas comme ça. Vous avez un avis, j'en ai peut-être un autre.
On ne peut plus vous regarder.
C'est vous qui me regardez.
On n'a rien de droit de faire dans ce studio. La prochaine fois, je vais remettre mon masque, en fait.
Et en fait, c'est comme ça que le bluff de Mélenchon a payé, parce que lui, il a fait une campagne à la Trump. Et donc, ça a secoué complètement la gauche, qui dit « Ah bah tiens, je vais y aller ». Parce que ce qu'on trouve absolument amusant et énergique et moderne chez Mélenchon, c'est tout ce qu'on trouvait absolument odieux, ridicule et insupportable chez Trump. Mais chez nous, ça marche. Et donc, il roule des épaules face à Macron. Et le résultat des courses, c'est qu'effectivement, c'est lui qui a redonné un peu de peps à cette campagne qui, sans ça, partait pour être mortelle d'ennui si on était resté sur Emmanuel Macron et Elisabeth Borne.
D'accord avec ça, Louis Dragnel?
Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Moi, je pense que le problème de fond, c'est pourquoi est-ce que les gens veulent plus voter? Parce que, c'est assez inaudible, peut-être que certaines personnes comprendront, mais aujourd'hui, un député, malheureusement, ça ne sert plus à grand-chose. Quand vous êtes dans la majorité, la critique est assez juste, c'est-à-dire que vous votez, c'est un peu une chambre d'enregistrement, et quand vous êtes dans l'opposition... Comme on est dans un système majoritaire et le système démocratique est ainsi fait, dans l'opposition, vous ne servez pas à grand-chose. Il y a, par le passé, des hommes politiques qui ont tenté de faire participer l'opposition à certains projets de loi, à certains textes, pour essayer de les impliquer. Mais globalement, je pense que le premier problème se trouve là. Et puis, il y a des racines beaucoup plus profondes. Je pense que la fin du cumul des mandats a été très néfaste sur le rôle qu'aujourd'hui ont les politiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de réserve parlementaire. Enfin, tout ce qu'on critiquait avant, moi j'étais un ardent défenseur de ce qu'on appelle abusivement d'ailleurs le cumul des mandats. Je pense que c'est nécessaire en fait qu'un député ait un ancrage local, pas forcément avec une très grosse mairie, mais parce qu'il est obligé de rendre des comptes aussi à ses administrés. Aujourd'hui, comme le député est déconnecté de cet ancrage local, eh bien les Français ne savent pas ce qu'ils font. Avant, vous aviez votre député qui obtenait, je dis n'importe quoi, mais une subvention de 150 000 euros pour rénover un stade de foot, pour une association. Il y avait une réalité tangible et votre député, vous l'appréciez ou pas, parce que vous disiez, c'est quand même grâce à lui, c'est lui qui a été négocié.
Beaucoup plus que pour sa couleur politique d'ailleurs.
Absolument. Et du coup, on rentre dans une logique, et je pense que si on arrive à la proportionnelle, qui sous certains aspects peut avoir des vertus, je pense que la proportionnelle va achever définitivement le lien entre les Français et le pouvoir politique. Parce que, en fait, les élus n'ont plus le pouvoir politique. Le problème, c'est la disparition du politique. Et par exemple, et je trouve qu'un des symptômes de cette disparition du politique, c'est Emmanuel Macron qui propose de créer son CNR, le Conseil National de la Refondation, pour en fait proposer aux citoyens français de décider un peu à la place des députés et des sénateurs, alors qu'on sait que constitutionnellement, de toute façon, ce sont les sénateurs et les députés qui auront le dernier mot. Donc en fait, ils créent avec...
Il y a déjà le Conseil économique social qui ne sert à rien.
Voilà. mais si on fait une toute petite digression, non mais parce que le CNR, ça peut être anecdotique, mais en fait, c'est pour moi le reflet, c'est l'illustration du problème, et pour moi, c'est vraiment l'archétype de la fausse bonne idée. Parce que vous donnez l'illusion aux citoyens français qui peuvent reprendre le pouvoir, alors qu'en fait, statutairement, c'est faux. Je peux m'appuyer sur un exemple réel. c'est au moment où Emmanuel Macron propose la Convention citoyenne pour le climat.
Ah bah oui, oui.
Convention citoyenne pour le climat. Emmanuel Macron dit « je prends tout à l'exception de 5 idées », je crois que c'était notamment la sortie.
Sans filtre.
Et puis finalement, il suffit d'écouter à la fois les détracteurs de la Convention citoyenne pour le climat et même les participants, les acteurs, ceux qui étaient très impliqués. Oui. Eh bien, il y a un consensus, c'est « on n'a pas été écouté, on est très déçu, on est désabusé, ça ne sert à rien ». Parce qu'en fait, voilà, tout ça c'est illusoire. Je pense que, simplement pour terminer et revenir peut-être sur le fond de l'idée, c'est qu'en fait le politique n'a pas assez de pouvoir, je pense qu'il faut redonner, revaloriser la fonction d'élu. Et c'est pas uniquement
pour
des tweets de soutien.
Ouais. Vous pourriez rajouter aussi le Sénat, parce qu'à chaque élection on dit « tiens, on va supprimer le Sénat ».
Là, ce serait une erreur fondamentale.
Là, il ne l'a pas dit, Emmanuel Macron, mais il a dit qu'on va créer une chambre supplémentaire. Donc on aurait le Sénat, qui comme disait le doyen Vedel, ce sont les représentants du seigle et de la châtaigne. Vous avez les députés qui, d'une certaine manière, est une chambre d'enregistrement. Ouais. Et vous avez ce CNR qui serait là, mais bon...
C'est une fausse bonne idée,
dans lequel, si je vous comprends bien, et je pense qu'on est à peu près tous du même avis autour de cette table, serait une sorte de boîte à propositions dans laquelle le président piocherait ce qui lui plaît.
Mais oui, mais il n'a pas besoin du CNR pour ça. Moi, je trouve qu'en fait, à force de...
Oui,
en
mais
fait,
il a besoin d'arguments électoraux.
Non, mais en fait, ça lui sert politiquement à lui, mais ça ne sert pas aux Français. C'est la différence en fait, entre l'objet politique au service d'Emmanuel Macron ou de tout autre politique et l'objet politique qui est réellement à destination des Français. Et là, je pense vraiment que ce n'est pas à destination des Français. On a beaucoup trop détricoté l'esprit initial de la Ve République et je pense que c'est pour ça qu'on en est arrivé là.
Un petit mot Arthur Nazaret avant qu'on passe à Mélenchon.
Effectivement, sur le CNR, c'est un peu bizarre de le mettre en avant au moment où on élit les députés. Alors, où sera le pouvoir? Et par ailleurs, bon, moi, je pense que De Gaulle aurait dit que c'est un machin, mais même les ministres, au sortir du Conseil des ministres, ne savent pas définir ce que c'est. C'est un peu bizarre.
Ouais, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été mis au courant.
Il n'y a que l'administration française. La fonction publique ne représente que 5 500 000 personnes. Donc il faut absolument créer un conseil pour avoir des idées. C'est inquiétant.
Gilles-Martin Chauffier de Paris Match, parlez-nous de cet article signé Sophie Desdésert, qui est une enquête en fait, et Émilie Lanez. Jean-Luc Mélenchon, la grande illusion, on le voit dans les rues de Metz, errant, voilà.
Oui, là, l'image, c'est un peu la promenade d'un rêveur solitaire. Il est tout seul dans une rue. Mais le portrait est amusant et intéressant parce qu'il est très, très fouillé. Et il révèle la grande intelligence et la grande perversion de Mélenchon. Scott Fitzgerald disait que la preuve de l'intelligence, c'est de fonctionner sur des idées contradictoires.
C'est vrai.
Mélenchon, c'est d'une contradiction du début à la fin. Tout chez lui est double. Il commence, au début, on le sait très bien, le fameux lambertiste, vous savez, le trotskiste pur et dur, etc. En même temps, sa passion de jeune homme, c'est l'histoire. Sa passion, c'est Louis XI. Il met au-dessus de tout le livre de Paul Murray-Condal, la biographie de Louis XI, qui est vraiment l'inverse évidemment, du lambertiste. On le voit aujourd'hui, on entend parler des flics sur un ton odieux. En fait, sa passion, c'est les militaires. Et c'est pas seulement les militaires de Castro et de Chavez, c'est les militaires français. Il était à la commission de la Défense nationale, était très ami avec Serge Dassault. Il a rencontré plusieurs fois le général de Villiers. Et en même temps, cet homme qui est l'incarnation de l'extrême-gauche, donc dans l'anticapitalisme primaire, de temps en temps même, il dit « je plagie Poutou » parce que d'une façon amusante, il dit ça. Et il dit, au fond... Son entreprise, l'entreprise des Insoumis, c'est l'entreprise la plus réglo, la plus efficace, la plus payante quasiment de la classe politique française. Tout est organisé, c'est une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Ils ont acheté des locaux, ils ont une société civile immobilière, il y a des produits dérivés. Tout ça est réglé comme du papier à musique. Et tout ça est réglé comme du papier à musique par ses proches, c'est-à-dire par son entourage immédiat.
Émilie et Sophie écrivent... Mélenchon n'a guère le goût du luxe, même s'il sait apprécier un bon restaurant, un détail raffiné chez une femme, une broche ou un foulard Hermès. Donc on est vraiment complètement dans la contradiction. Et là, vous avez, sans le vouloir, dit en même temps, mais ça rappelle quand même quelqu'un d'autre qui est aussi dans ces contradictions.
C'est tous les gens un peu intelligents, un peu supérieurs, et Mélenchon a un gros défaut, mais il est quand même d'une intelligence supérieure et c'est un orateur exceptionnel. C'est pas étonnant qu'on ne découvre pas qu'il est intelligent. Ce qui est plutôt amusant, c'est ce côté... là, vous disiez... il aime bien les bons repas, le bon foulard.
Oui.
En même temps, il a déclaré. En même temps, on sait qu'il ne supporte pas Fabien Roussel, qui est lui beaucoup plus bonne bouffe, bon steak. Et lui dit, moi, je suis la France qui ne l'a. Qui est quand même complètement dingue de penser que Mélenchon a dit ça. Oui, il a dit, pour ma ligne, pour ma campagne et tout, moi, je mange du quinoa, je mange des salades de quinoa.
Là, il dit, quand je serai dictateur éclairé, je supprimerai les feuilles de salade sous l'entrecôte. Donc, faut savoir.
Il a dit un jour, il dit le contraire le lendemain. C'est un peu le principe même du fonctionnement de Jean-Luc Mélenchon.
Facile à suivre.
Et c'est pour ça qu'il est à la fois très, très à l'ancienne et très moderne. Il est sur TikTok. C'est le plus efficace des candidats en matière de TikTok. C'est pour ça qu'on a appelé ça la grande illusion. C'est-à-dire qu'on a toujours le Mélenchon qu'on cherche.
Arthur Nazareth, vous qui suivez Jean-Luc Mélenchon souvent, vous vous reconnaissez un peu dans ce portrait-là?
Alors, je trouve qu'en termes de ligne politique, il a parfois des habiletés. Un coup, il est de gauche. Un coup, il répudie ce mot et il est le candidat du peuple. Mais je trouve que par contre, si vous prenez un peu son programme, maintenant ça fait trois fois qu'il y va, sur sa ligne politique, je ne trouve qu'il ne varie pas énormément. Alors il y a des bougets, mais on ne peut pas dire qu'il se dédie ou qu'il ne soit pas franc du collier.
Vous trouvez qu'il n'a pas changé sur la laïcité, vous trouvez qu'il n'a pas changé? Moi, je trouve qu'il a beaucoup changé.
Sur l'Europe, il était contre le... Bon, je crois qu'il a voté Maastricht, mais ensuite...
Ah bah, c'est embêtant.
Je crois, il faut vérifier. Mais après ça, il a changé.
C'était les années Mitterrand aussi.
Oui,
oui,
il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.
Il avait une grande affection pour Mitterrand, qu'il appelait le vieux, un surnom qu'il donnait aussi à Trotsky. Mmh. Sans doute la même affection. Non, mais je pense que politiquement, voilà, il est plutôt de cette gauche radicale que vous appelez extrême gauche. Mais je pense pas qu'il se cache pour avancer. Alors parfois, il a par exemple, il avait créé une structure avec un de ses proches, François Delapierre, pour ne pas dépendre du Parti communiste. Si jamais le Parti communiste n'allait plus avec lui, donc il a souvent de fer au feu. Il a souvent un plan B, comme il disait à l'époque européenne. Et voilà. Après, le portrait, moi, je l'ai trouvé parfois dur. Très enquêté, bien écrit évidemment. Et voilà, mais.
À l'occasion, il disait par exemple, il y a quelques années, il le dirait aujourd'hui, il se ferait trancher la langue plutôt que le dire, il disait le féministe, c'est un tissu de conneries. Aujourd'hui, il dirait plus ça.
Il
évolue.
Il
ne
pourrait pas.
De toute façon, personne ne le dirait. Et tout le monde le disait il y a 15 ans. Oui.
Louis de Ragnel pour Europe 1.
Moi, ce qui me frappe chez lui, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un de gauche et il se comporte comme chef de parti, comme vraiment un chef de droite à l'ancienne. C'est-à-dire qu'il maintient une pression
un
incroyable sur ses troupes et il réussit un exploit qu'aucun autre politique ne réussit à faire jusqu'à aujourd'hui, c'est maintenir sous sa coupe deux lignes que quasiment tout oppose. Une ligne très républicaine, Quatennens, des gens comme ça, Adrien Quatennens, donc très axé sur la laïcité. Et de l'autre côté, vous avez une ligne très indigéniste, donc woke, avec des gens comme Daniel Obono, par exemple. Normalement, la ligne d'affrontement, enfin, il y a un affrontement extrêmement fort entre ces deux lignes-là. Et pourtant, il n'y a pas de vague, il n'y a pas un mot, il n'y a rien qui sort. Et ils sont coiffés sous le même chapeau de Jean-Luc Mélenchon. La deuxième chose qui me frappe, et j'en termine par là, c'est que c'est quelqu'un qui prône une horizontalité partout, le pouvoir du peuple, la démocratie participative, et ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, et c'est quelqu'un qui est extrêmement vertical, c'est-à-dire que rien n'est décidé sans son accord, et c'est vraiment, il se comporte presque comme un chef de guerre, où c'est la guerre tout le temps,
tout, vous voyez,
où tout dépend de lui. Voilà, moi, ce sont les deux choses qui sont des vrais paradoxes et en même temps des forces incroyables.
Arthur Nazareth, JDD.
Oui, moi, ça m'a un peu moins fait penser à la droite qu'à Emmanuel Macron et surtout à son mouvement. Parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est gazeux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de congrès, il n'y a pas de vote, et donc ça évite effectivement que les lignes s'affrontent trop violemment, qu'on les voit à la lumière du jour. C'est peut-être quelque chose qu'il a tiré du PS, parce que lui, il a ferraillé dans le PS, il était minoritaire pendant des années et des années, et d'ailleurs, au moment où il négociait l'accord de la NUPES, ses proches moquaient les Verts en disant que les Verts étalaient devant eux leur division et qu'ils faisaient devant eux leur congrès. Et Julien Bayou, le chef des Verts, avait dit « Mais il devrait essayer les congrès, c'est pas mal.
» Il y a beaucoup à perdre.
C'est une bonne façon de voir les choses. Il y a aussi des photos dans cette enquête.
Il y a des photos extraordinaires, en particulier de quand il est jeune, etc. On le voit en claquette... un côté un peu
post, il y a un côté un peu relax, côté relax, et puis après il y a un côté alors il est avec quand même sur un tandem avec Julien Drey, et là il a quand même, pardonnez-moi, mais De loin, on dirait quand même le duo dans les années 80 de Chevalier et Las Palès, quoi, parce qu'il y en a un qui a exactement le même faciès. Bon, en tout cas, c'est un article passionnant à lire dans le journal Paris Match cette semaine. Merci à vous trois. Merci à Arthur Nazaret.
Merci à vous.
Pour le JDD qu'on aura le plaisir de lire dimanche. Merci à vous, Gilles-Martin Chauffier, pour Paris Match et Louis de Raguenel pour Europe 1. Dans un instant, interview exceptionnelle d'un homme qui sillonne l'Ukraine et qui retrouve des morts un peu partout, des morts oubliés qui sont sous les décombres de ce pays traversé par la guerre. Nous sommes au 108e jour de conflit, toujours pas de solution. Le père Patrick Desbois témoigne de l'horreur de ce qui se passe en Ukraine. Il sera en direct avec nous juste après. À tout de suite.